Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.
Salut à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans l'épisode 4 de Culture Cube. Aujourd'hui, comme prévu, on continue notre thématique Survival Horror avec Resident Evil 4. Suite au remake du premier épisode, dont j'ai parlé dans le podcast précédent, Capcom s'est attaché, d'une part, à porter sur GameCube les épisodes existants, à savoir le 2, Nemesis et Code Veronica, et d'autre part, à en développer de nouveaux, en exclusivité pour Nintendo. Ce fut tout d'abord Resident Evil 0, préquel sorti en 2003 et qui, malgré un air de déjà-vu, apportait quelques nouveautés, notamment le fait de diriger deux personnages simultanément, et surtout la volonté de Capcom de délaisser le survival pur et dur au profit d'un peu plus d'action. La voie de l'action dans laquelle Capcom s'est franchement engagé avec Resident Evil 4, sorti en 2005. Si les développeurs ont longtemps tâtonné, petite parenthèse à ce sujet, on peut facilement trouver sur le net des vidéos des nombreuses versions bêta qui ont été annulées, c'est extrêmement instructif et très intéressant, d'autant plus que l'une des versions bêta s'est transformée plus tard en Devil May Cry. Fin de la parenthèse. Si les développeurs ont longtemps tâtonné, disais-je, ils ont finalement opté pour une évolution significative de la série, et ce, sur plusieurs aspects. Premièrement, le gameplay. Comme je vous le disais, Capcom s'est engagé dans la voie de l'action horror, délaissant l'aspect survival. Pour accompagner cette évolution, le jeu est désormais en 3D temps réel, comme pour Code Veronica, et la maniabilité est beaucoup plus souple. Avec une caméra à l'épaule qui suit en permanence le joueur, on est à mi-chemin entre un FPS et un TPS, ce qui autorise un système de visée et une localisation des dégâts. Les actions contextuelles font aussi leur apparition, dont certaines au beau milieu des cinématiques. Enfin, on notera la présence d'un système d'achat et d'upgrade d'armes, preuve supplémentaire de l'importance de l'action dans le jeu. En ce qui concerne la réalisation, Capcom réussit un beau défi, celui de passer de la 3D précalculée à la 3D en temps réel, sans perte significative de qualité. En effet, la réalisation est toujours aussi exceptionnelle. Les effets de lumière sont toujours aussi beaux, les décors détaillés, et les animations des personnages et des ennemis sont très bien réussies. On notera tout de même un fort aliasing qui fait perdre en finesse ce que le jeu gagne en fluidité. Et les puristes pourront regretter que le passage à la 3D intégrale fasse perdre les plans de caméra fixes qui donnaient un incomparable cachet au jeu précédent. La bande-son est quant à elle un régal, bien équilibrée entre pistes épiques, silences angoissants et bruitages terrifiants. Enfin, le scénario se démarque nettement et c'est peu de le dire. 6 ans après les événements de Raccoon City qui ont amené à la disparition d'Umbrella Corp, on retrouve Leon Scott Kennedy. Le héros de Resident Evil 2 est désormais un membre de la sécurité du président des États-Unis, envoyé dans un petit village paumé de la campagne espagnole pour retrouver la fille du président, qui a été kidnappée par une étrange secte religieuse. Bon alors d'habitude, je n'ai rien contre les scénarios des Resident Evil, qui ont un agréable petit côté série B, mais là franchement, ils ont craqué leur slip. Parce que si je récapitule, des fanatiques espagnols qui vivent dans la boue ont réussi à se rendre aux États-Unis, à kidnapper la fille du président, à rentrer avec dans leur trou à rats, et du coup, les Américains sortent l'artillerie lourde et envoient un seul mec, armé d'un blouson de fourrure et d'un 9mm, pour la récupérer. Enfin bref. Ce scénario bidon a au moins le mérite de nous faire voir différents environnements qui sont esthétiquement très différents et très réussis. Cela mis à part, le jeu est vraiment excellent à tout point de vue, et vous auriez tort de passer à côté. Je finirai juste par préciser que le jeu est ensuite sorti sur PlayStation 2, avec quelques bonus supplémentaires. Je vous prierai d'éviter à tout prix la version PC, mais n'hésitez pas à tenter la version Wii, qui, grâce à la visée à la Wiimote, est extrêmement plaisante à jouer. C'est d'ailleurs sur cette version que je vais jouer maintenant. Alors me voici devant le jeu et j'ai choisi de jouer un passage qui est pas très très loin dans le jeu.
On y accède à peu près au bout de 20 minutes, une demi-heure, ça dépend si c'est la première fois que vous jouez ou pas. Et je l'ai choisi parce qu'en fait il va y avoir de la cinématique interactive, il va y avoir du combat, il va y avoir du marchand d'armes, et donc ça va permettre de visionner un petit peu la plupart des éléments qui sont intéressants dans le jeu par rapport aux autres Resident Evil. Donc là je suis dans une cinématique où mon personnage, Leon Scott Kennedy, est enchaîné avec un autre personnage qui s'appelle Luis Serra. Les deux ont été arrêtés par le chef du village. Et donc là, ils discutent entre eux pour dire moi je suis en train de rechercher la fille du président, moi je suis un ancien policier espagnol, etc. Donc c'est les dialogues classiques Resident Evil qui sont un mélange de... de série B et de trucs un peu plus sérieux, mais avec toujours une petite pointe d'humour, d'ironie, donc c'est pas mal. J'ai pas mal trashé sur le scénario juste avant, mais globalement c'est pas un défaut qui serait insurmontable. On prend énormément plaisir à jouer au jeu et on peut prendre le scénario au second degré, donc y a pas de souci. Alors là il y a un zombie, déjà je fais une erreur, puisque grosse différence avec les Resident Evil précédents, ce ne sont plus des zombies mais des infectés. Étant donné qu'Umbrella Corporation a été détruit, l'ennemi contre lequel on va se battre dans ce jeu, ça n'est pas Umbrella, mais une secte espagnole qui s'appelle les Illuminados, qui ont mis au jour des fossiles de parasites qui s'appellent les Plagas, alors littéralement la peste, et ces parasites prennent le contrôle en fait d'organismes vivants, et le chef de la secte, lui, a le pouvoir de contrôler ces organismes. Donc c'est la trame un peu plus détaillée du jeu, et donc les ennemis qu'on affronte, ce sont en fait des infectés, ils sont infectés par des parasites, ce ne sont pas des zombies qui auraient été, c'est-à-dire des morts réveillés par le virus T. Alors là il va m'attaquer pendant la cinématique. Et donc, va y avoir une action contextuelle au milieu de la cinématique. Donc là, il fallait que j'agite la Wiimote. Si c'était sur GameCube, c'était des combinaisons de boutons. Par exemple, appuyer A plus B, ou appuyer sur les deux gâchettes en même temps. Enfin bref. Et l'intérêt aussi, c'est que ça varie. C'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes actions contextuelles au même moment. Donc si vous refaites plusieurs fois le jeu, ça m'est arrivé la première fois que j'ai refait le jeu. Je me suis planté parce que je m'attendais à une action contextuelle particulière et en fait c'est une autre qui est apparue, donc je me suis vautré. C'est assez sympa, en termes de rejouabilité, ça donne un peu de fun au jeu. Alors là, ça enchaîne sur une espèce de mini cinématique où mon contact, qui est aux États-Unis, qui s'appelle une jeune femme qui s'appelle Hunnigan, qui ne sert strictement à rien, il faut le dire, si ce n'est à mettre un joli visage bien modélisé, qui nous dit retrouver la fille du président. Lui dit non, j'y arrive pas, mais qu'est-ce que vous foutez? Enfin voilà, c'est ce genre de dialogue qui sert pas à grand chose. Mais bon, enfin ça renforce légèrement l'immersion à certains moments, sachant que à partir d'un certain moment dans le jeu, elle n'intervient plus trop, et c'est pas plus mal, on l'oublie carrément. Et alors là, j'enchaîne parce qu'on va avoir la première apparition du marchand d'armes. Alors le marchand d'armes, c'est une innovation par rapport au précédent Resident Evil. Dans les épisodes précédents, vous pouviez avoir différentes armes, mais elles n'étaient pas modifiables. Et une fois que vous les aviez, si vous ne vous en serviez pas, vous les rangiez dans une malle. Et vous choisissiez en fait telle arme pour tel passage, ou alors les armes pour lesquelles vous aviez des munitions, etc., etc. Là, dans Resident Evil 4, vous allez avoir la possibilité d'acheter des armes, de les vendre et de les améliorer. Donc tout ça nécessite de l'argent que vous gagnez en détruisant des caisses ou alors en tuant des ennemis. Des fois, ils lootent de l'argent, d'autres fois des munitions. Bon, c'est pas forcément très logique, mais voilà. Et cet argent, en fait, pour les armes, il va falloir l'utiliser face au marchand d'armes qui est présent un petit peu partout dans le jeu. On sait pas trop d'où il vient, on sait pas trop pourquoi il est là. Enfin, c'est un personnage assez mystérieux. Et donc là, moi, Comme je connais bien le jeu, j'ai déjà récupéré pas mal de trésors et de choses à vendre. J'ai bien fait attention de récupérer tout l'argent qui pouvait traîner. Et du coup, j'ai déjà 45 000 pesetas, qui est la monnaie du jeu. Et donc, ça va me permettre d'acheter des choses. Et en premier lieu, une plus grande mallette. Puisque désormais, alors c'est pas nouveau dans Resident Evil, mais on range notre inventaire dans une mallette, ce qui permet d'en ranger en fonction de la taille de la mallette. Donc au début, on a une toute petite mallette qui permet de pas ranger, enfin de ranger très peu de choses. Et j'achète la mallette M, c'est-à-dire taille moyenne, qui va me permettre d'être un peu plus ample. C'est important de bien les acheter parce qu'en fait, à partir d'un certain moment, vous allez récupérer beaucoup de choses, par exemple des herbes, des munitions, plein de choses différentes, et puis même d'autres choses un peu plus surprenantes comme des poissons ou des œufs. Et il faut avoir de la place pour les ranger parce que sinon vous allez devoir jeter des choses pour pouvoir les prendre, et ce serait un petit peu dommage. Je vais en profiter aussi, même si là, comme je connais bien le jeu, normalement j'en ai pas besoin, pour acheter la carte du village qui va m'indiquer donc non seulement le plan mais aussi en plus l'emplacement des trésors. Les trésors si je les récupère tous, je peux les assembler entre eux pour faire des objets qui ont une grande valeur. Je les revends et du coup ça me permet d'acheter plus d'armes ou alors de les améliorer. Donc tout ce système là qui est très surprenant pour un Resident Evil, c'est équilibré, ça marche bien. Franchement, c'est une bonne surprise, une bonne idée, avec énormément de choix d'armes. Alors c'est évolutif, hein, au début là pour l'instant j'en ai pas tant que ça, j'en ai 6-7, mais au fur et à mesure du jeu vous avez des nouvelles armes qui apparaissent chez le marchand et vous pouvez en acheter de plus en plus évoluées, de plus en plus performantes. Sachant aussi qu'il n'y a pas que les armes que vous pouvez vendre et acheter, il y a aussi du matériel, par exemple des sprays de premier secours qui vous permettent de régénérer toute votre vie. Ou alors vous pouvez vendre aussi des munitions, le marchand il va acheter à peu près tout et n'importe quoi, enfin tout ce que vous pouvez avoir dans votre inventaire, même des choses comme les grenades, les œufs de poule, les poissons et ainsi de suite. Donc, le système d'achat et d'optimisation d'armes. Je vais enchaîner avec une phase de combat parce que là où je suis, j'ai réussi à me, grâce à la cinématique interactive, à me débarrasser de l'infecté, enfin du villageois qui m'attaquait. Je viens d'acheter des armes et d'ailleurs j'ai pas regardé si je pouvais en optimiser. Je vais faire ça vite fait. Et en fait là il va falloir que je retourne dans le village pour je peux pas optimiser. Il va falloir que je retourne dans le village parce que je suis toujours à la recherche de la fille du président. Et le fameux Luis Serra avec qui j'étais là m'a dit que a priori elle se cachait dans l'église. Sauf que l'église elle est derrière le village et moi j'ai été emprisonné à l'autre bout. Donc il va falloir que j'y retourne et pour ça il va falloir bien passer par une zone assez emblématique qui représente très bien ce qu'on doit faire dans le jeu, une flopée d'ennemis qui m'attaquent et en parallèle une énigme à résoudre, puisque là la porte par laquelle je dois passer est bloquée. Il faut que je la débloque en récupérant des insignes. Et ces insignes sont présents sur le... Alors je me fais attaquer à la dynamite carrément. Ces insignes sont présents dans deux coffres dans la zone. Et donc il faut que j'évite une hache. Les ennemis sont un peu plus originaux que ce qui pouvait se faire dans les... Enfin, originaux. Les ennemis humains, j'entends par là. Parce que ils vont avoir tendance à esquiver vos... Encore de la dynamite, décidément, ils sont énervés. Ils ont des comportements du coup humains. Ils vont essayer de vous attaquer de loin en vous lançant des haches. Ils vont essayer d'esquiver vos tirs en faisant des espèces de petits mouvements de côté. Et puis, je n'arrête pas de me faire attaquer par de la dynamite. Donc ouais, c'est un comportement différent des zombies, ils sont plus rapides aussi. Donc moi personnellement, enfin c'est beaucoup plus nerveux. On est très loin du survival horror, c'est-à-dire que il n'y a plus à éviter les combats, faut vraiment y aller, faut rentrer. Enfin certains passages sont un peu plus délicats, donc il faut les prendre avec prudence. Mais globalement, alors là, une action contextuelle parce que je me suis fait agripper par un zombie, par un infecté décidément. Et du coup, à ce moment-là, il y a une action contextuelle qui se déclenche et en agitant la Wiimote, je peux me dégager de l'ennemi. Alors, j'ai récupéré la moitié de l'emblème. Alors, je vois qu'on va commencer à manquer un peu de temps. Par quoi est-ce que je vais pouvoir finir ? Les énigmes, globalement, c'est de cet acabit-là. Hein. Vous avez une porte bloquée, il faut trouver un item pour la débloquer. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et en ce qui concerne globalement la maniabilité, donc c'est beaucoup plus nerveux, c'est vraiment un jeu d'action, c'est plus souple. Hop. Je récupère le deuxième emblème, donc voilà, vraiment jeu d'action, on n'est plus dans du survival horror. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête, parce que sinon on risque d'être déçu. C'est plus du survival horror, c'est un jeu d'action. Alors, j'arrête pas de me faire trucider. Je pense que je vais mourir parce que je n'ai quasiment plus de vie. Et je suis mort. Donc voilà, on va mourir. Enfin, on va s'arrêter là-dessus sur ma mort. Bon, il faut dire que j'ai fait un peu le kikou. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce que je pouvais vous raconter en un quart d'heure sur Resident Evil 4. C'est vraiment un jeu incontournable du GameCube. Malheureusement, l'exclusivité n'a pas duré très longtemps puisque à peu près, enfin quelques mois après, le jeu est sorti sur PlayStation 2. Mais il n'en reste pas moins que, à la base, c'était une exclusivité Nintendo GameCube. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce podcast. On se retrouve la prochaine fois pour le troisième et dernier podcast de notre thématique Survival Horror. Ça sera Eternal Darkness Sanity's Requiem. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.
Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.